Je vous salue, Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
La tactique du diable. C'est pas la tactique à Bourville. La tac 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 du gendarme. Non, c'est la tactique du diable. La lutte que nous devons mener s'exerce principalement contre le péché, contre nos tendances à nous rabattre sur nous-mêmes. Mais cette inclination au péché est influencé par plusieurs forces. Selon la tradition biblique et la tradition spirituelle à sa suite, il y a trois influences mauvaises qui agissent à la racine de la tentation et agissent d'ailleurs les unes sur les autres. Le diable, le monde et la chair. La chair, c'est pas la sexualité, c'est beaucoup plus large que ça. C'est en fait l'homme psychique, en gros, c'est l'homme qui boucle sur lui-même. Saint Jean de la Croix, vous retrouverez des choses similaires chez saint Thomas d'Aquin dans son commentaire du Notre Père. Mais qu'entendons-nous à Jean de la Croix? Tous les dommages que reçoit l'âme proviennent de ses trois adversaires, à savoir du monde, du démon et de la chair. Le monde est l'ennemi le plus faible, le démon est plus difficile à découvrir, et la chair est la plus opiniâtre de tous, et ses assauts durent tant que le vieil homme subsiste. Or, pour surmonter l'un de ces trois ennemis, il faut les terrasser tous trois. L'un d'entre eux étant affaibli, les deux autres vont manquer de force, et quand tous les trois sont surmontés, l'âme n'a plus de guerre, de combat à soutenir. Il est toujours délicat de parler du diable. Celui qui me met à l'aise, c'est le pape actuel. Il n'hésite pas à en parler, peut-être un des papes qui n'hésite pas le plus. Celui qui en avait pas mal parlé, c'est Paul VI, quand il a dit que le diable est rentré, s'est infiltré dans l'Église, que dirait-il aujourd'hui? Saint Jean Chrysostome, donc ça remonte, alors qu'il traite du père du mensonge avec les chrétiens dont il a la charge, il prend cette précaution oratoire. Je n'aime pas parler du démon, mais j'en parlerai quand même parce que c'est pour votre bien. Pourquoi c'est risqué de parler du diable? Parce que ça suscite des peurs chez les âmes un peu sensibles, un peu scrupuleuses, fragile, pessimiste. Mais d'un autre côté, le diable a actuellement un tel boulevard dans le monde et dans certains secteurs de l'Église que ne pas en parler est une non-assistance à personne en danger. Dans la balance, je préfère en parler. Voilà, après ces quelques mots d'introduction, une première partie. Satan est comme un chien attaché qui aboie. Je ne suis pas très sûr, mais je crois qu'on doit au père de Montfort cette parole. Satan n'est pas Dieu. Et voilà pourquoi il l'appelle le chien. Il est une créature de Dieu qui s'est rebellée contre Dieu, mais il n'est pas Dieu. Dans l'Écriture, seul Jésus est le roi, le mauvais est le prince de ce monde, mais il n'est que prince. Satan est vraiment le tentateur. première note de cette première partie. Je vous parlais du pape Paul VI. Voilà, c'est pas un prêtre un peu sévère qui parlerait, c'est ce saint pape qui a tant souffert. J'ai appris une chose, c'est qu'il gémissait la nuit dans les derniers temps de sa vie, pas par ses souffrances, mais par la déchirure qu'il voyait, le progressisme, le changement de la foi qu'il voyait s'infiltrer dans l'Église. Il gémissait. Il paraît que les gardes suisses ne voulaient pas garder ses appartements, tellement il souffrait de l'entendre souffrir. Il s'écarte de l'enseignement de la Bible et de l'Église, ceux qui refusent de reconnaître son existence, ou encore qu'il explique comme une pseudo-réalité, une invention de l'esprit pour personnifier les causes inconnues de nos maux, dit Paul VI. Il est le tentateur, la meilleure des tentations pour lui, c'est Baudelaire qui l'a très bien dit. Un jour, il imagine un repas, il y a Satan qui est là, et Satan dit « Je n'ai eu peur qu'une fois, c'est le jour où j'ai entendu un prédicateur plus subtil que ses confrères s'écrier en chair, « Mes chers frères », ce mot que vous connaissez, la plus belle ruse du diable, et de nous persuader qu'il n'existe pas. Dans l'Église, on se pressent toujours un petit peu en avance quand je vois qu'on a... Dans certains diocèses du monde, il n'y avait plus d'exorcistes. Et quand ils y croyaient déjà, c'était déjà ça. Quand ils croyaient que c'était pas du pur psy. Dont Gabriel et Emmaüs a beaucoup fait auprès de Rome pour qu'on remédie à ces graves déficits. Il ne peut pas atteindre Dieu. Alors que fait-il? Il va se venger sur ses enfants. Rappelez-vous, Apocalypse, voyant qu'il ne pouvait plus atteindre la femme, il atteint les enfants. Il veut les entraîner à la rébellion, au mal, au péché, à la pourriture. Il aime la pourriture. C'est un être pourri. 1 Pierre 5, 8, 9, si vous priez le bréviaire, vous trouverez ça accompli chaque semaine. Soyez sobre, veillez, votre parti adverse, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer, résistez-lui, ferme dans la foi. Et il atteint jusqu'à la dernière seconde. On raconte que le diable apparut au grand saint Antoine du désert, pas saint Antoine de Padoue, un quart d'heure avant sa mort. Le démon lui dit « Antoine, tu as gagné. Maintenant, tu n'as plus besoin de te faire des efforts. Tu as gagné la partie. » Antoine lui répond « Menteur. Je sais qu'il reste encore un quart d'heure avant que je meure. » Heureusement que Dieu limite les ravages que peut faire Satan. Le monde n'existerait plus. Vous m'entendez? Et c'est pas un théologien borderline qui dit ça, c'est saint Augustin. Si le démon pouvait nuire autant qu'il le veut, il ne resterait ni un seul juste, ni un seul fidèle sur la terre. Vous voyez? Quand vous voyez Satan agir chez des âmes, parce qu'il n'agit pas que chez les âmes pécheresses, Dieu permet aussi qu'il agisse chez des âmes d'élite. Je vous ai parlé d'une âme stigmatisée. Quand vous le voyez à l'œuvre, quasiment il est devant vous. Et puis après vous entendez des cathos de service qui soi-disant ont de la théologie, qui vous racontent des bêtises, vous avez très mal. Vous touchez presque du doigt sa présence et vous entendez des gens qui l'ont jamais rencontré. Qu'est-ce que vous avez mal? Catéchisme 395. La puissance de Satan n'est cependant pas infinie. Il n'est qu'une créature puissante, du fait qu'il est pur esprit, mais toujours une créature. Quoique Satan agisse dans le monde par haine contre Dieu et son royaume en Jésus-Christ, et quoique son action cause de graves dommages, de nature spirituelle et indirectement aussi de nature physique. J'ai trouvé ça, si vous cherchez un bouquin de théologie, Bonino sur les anges, à l'école de Saint Thomas. Un gros pavé, un peu laboratif, mais sûr au niveau doctrine. Et donc, même le cosmos, il y a été donné une garde aux anges. Travailler ces choses-là, j'ai pas le temps de développer. Dans Faust, Goethe fait dire à Méphistophélès, l'un des sept princes de l'enfer. C'est pour ça que c'est intéressant que ça vous fasse pas peur. Je suis une partie de cette force qui veut toujours le mal, mais qui au final produit toujours le bien. Ben parce que Dieu le tient en laisse. Il n'y a pas une seule chose que Satan fait dans le monde en dehors de l'autorisation de Dieu. Et pourquoi a-t-il fait ça pour la victime? Ben parce que ça va hyper rapide comme sanctification, vous comprenez? C'est tellement, quand vous entendez les personnes, c'est extrêmement douloureux. Et les personnes sont affinées, élevées très rapidement en Dieu. Bon, ce sont des cas un peu rares, je vous l'accorde. Et donc si par hasard il y en a des âmes qui parmi vous sont un peu de nature sensible, inquiète, et qui... Mais pourquoi tu t'inquiètes? Puisqu'il fait rien, il est tenu en laisse. Bah tu tiens à 2 mètres, puis tu le laisses aboyer, puis c'est tout. Écoutez Thérèse d'Avila, parce qu'elle en a bavé avec lui. Hein. Je ne puis concevoir les craintes qui provoquent ces exclamations chez les catholiques. Le démon, quand nous pouvons dire par ailleurs, mon Dieu, et faire ainsi trembler l'esprit des ténèbres. Ne savons-nous pas qu'il ne peut faire le moindre mouvement si Dieu ne le lui permet? Pourquoi donc ces frayeurs? Pour moi, je l'affirme, je redoute bien plus ces hommes si timides devant le démon que le démon lui-même. Il faut dire que la Thérèse, c'est... Il faut avoir une âme mâle, dit-elle à ses sœurs. Désolé pour le féminisme ambiant. Mais en fait, le féminisme ambiant, c'est ça. C'est une copie du plus mauvais de l'homme. Comme si c'était la référence. Le démon, notre tentateur. Je parle du féminisme exacerbé, parce qu'il y a un véritable féminisme. Et la reine, c'est la Vierge Marie. Le démon, notre tentateur, vous mettez entre guillemets, tentateur. Je ne vais pas parler des tentations extraordinaires, oppression, infestation, etc., etc. Je vais me cantonner à la tentation ordinaire de la vie. Ceci dit, je fais une parenthèse. Vous comprenez, faut pas vous étonner si vous menez une vie dépravée, si vous faites de l'occultisme, tout ce qui est, voyez, paranormal et tous ces trucs-là, faut pas vous étonner qu'il y a des problèmes. Hein. Alors comme aujourd'hui, c'est la grande, grande confusion. Tout péché est-il dû à une suggestion diabolique? Première note de cette deuxième partie, le démon, notre tentateur. Le démon est indirectement lié à tous nos péchés. Je dis bien indirectement, c'est saint Thomas d'Aquin qui l'enseigne parce que il est celui qui a tenté nos parents, Adam et Ève, dont nous héritons de la nature blessée à cause du péché originel. Et donc indirectement, puisque Adam et Ève, c'est pas simplement un premier couple, c'est la tête de l'humanité, dit Thomas. Et voilà pourquoi il a envoyé le Christ, qui est la tête rédemptrice de l'humanité. Mais il serait inexact de dire que tout péché est dû à une persuasion du diable. La constitution même de l'homme l'incline au désordre, saint Thomas d'Aquin. Même si le diable n'existait pas, les hommes n'en auraient pas moins le désir de la nourriture, des plaisirs charnels et autres, desquels se produisent beaucoup de désordres. Ainsi donc, il n'est pas nécessaire que tous les péchés viennent de l'inspiration du diable. Deuxième note de cette deuxième partie. À quel niveau de notre être Satan peut-il agir ? Il ne peut pas agir directement sur notre volonté. Quand j'étais prêtre en paroisse, j'aimais beaucoup dire ça aux jeunes parents, quand il était question d'expliquer la prière de l'exorcisme que fait le prêtre au moment du baptême. Et de dire aux parents, aux jeunes parents, vous savez, comprenez-le de manière positive. Ça veut dire quoi ? Cette prière va être faite. Il y a une zone la plus intime de votre enfant, son âme, qui est comme le coffre-fort du bon Dieu. Et il ne peut pas y avoir d'effraction. C'est extraordinaire. En chacun d'entre nous, même les êtres les plus pervers, Eichmann, dansant sur la tombe des Juifs, dit-il, après tout ce qu'il a fait, je danserai au procès de Nuremberg. Même les êtres les plus maléfiques de cette terre que Dieu seul connaît, il y a un coffre-fort dans leur âme où il y a seul Dieu et l'amour qui ont accès. Et c'est ton cas. Saint Cyril de Jérusalem. L'âme est libre, le démon peut suggérer le mal, mais il n'a pas le pouvoir de nous contraindre à le faire contre notre volonté. Voilà pourquoi, chers amis, je vous donne un petit critère qui peut aider. Comment on reconnaît l'action du diable dans des âmes ? Par son caractère d'extériorité. Tandis qu'avec le bon Dieu, c'est extrêmement intérieur, extrêmement doux. Ça dure. Deuxième note, il ne peut pas agir sur notre volonté, sur notre âme, mais il peut agir sur les sensations, les suggestions. Hésychius de Bathos, un des pères de l'Église. Satan ne peut pas, sans l'imagination, susciter des pensées et les exposer à l'intelligence pour le tromper par le mensonge. Rassurons-nous, chers amis, si le diable peut tenter, le bon ange, chacun a un bon ange, mes amis. Et François de Sales dit, j'ai deux anges. Ben pourquoi ? Parce qu'il est pourri de chance ? Non, parce qu'il est évêque et qu'il s'est lié à la mission. Parce qu'une fois, tenez-vous, vous trouverez ça dans les écrits de Saint-François de Sales, c'est assez bouleversant. Il a une âme religieuse qui vient la voir. Et comment se fait-il, je vois deux anges de chaque côté de vous. Et lui, très relax, bah oui, c'est pas étonnant. Non, c'est quand même un peu étonnant. Il est un bon ange. J'ai eu la grâce de travailler sur Léonie Martin, petite sœur de Thérèse. Tant aimée du monde et qui va être de plus en plus aimée parce qu'elle est cabossée. Et comme le monde est très cabossé, ils vont la prendre comme leur petite sœur. Et quand je suis allé prêcher dans son monastère, la spécialiste de Léonie m'a emmené.
Je vais vous montrer où s'est passé l'épisode avec son ange. Écoutez, je lis parce que vous trouvez ça. Ben, c'est vrai, c'est pas encore publié. C'est dans ses courriers. Thérèse est morte depuis un moment. Elle a découvert Thérèse. Elle est folle de l'histoire d'une âme. Ça la nourrit énormément. Et elle dit, j'ai adopté Thérèse comme mon ange. Et voici ce qu'elle raconte. J'assistais à matine, donc la prière très tôt le matin, où j'étais pleine de distractions. Hélas, ce n'est pas rare, dit-elle, si toutefois ça peut vous rassurer. Et voilà que tout à coup, quelque chose de lumineux se pose sur notre livre d'office, avec la rapidité de l'éclair. Ce n'est qu'après que je me suis rendu compte que j'avais vu, ce que j'avais vu était une main lumineuse. Aussitôt, je me suis dit, oh, c'est ma petite Thérèse, mon second ange gardien, qui me rappelle à l'ordre. C'est là que ça se passe. Voilà ce qu'est dit la main, Thérèse. C'est là que ça se passe. Faut que tu sois à l'office. Que de fois depuis, j'ai désiré revoir cette main idéale, mais je ne l'ai jamais revue. Ce n'est pas de l'imagination, dit-elle, c'est la réalité. C'est difficile pour des esprits du pays Descartes, avec son rationalisme outrancier, de croire à ces choses-là. Vous savez que Dieu prend que la place que vous lui donnez. Si donc vous avez décrété un certain nombre de choses, il n'interviendra pas. Pourquoi a-t-il intervient chez ces êtres-là? Parce que ce sont des anawim, les petits, les pauvres de l'Évangile. Ils savent que de la terre, il n'y a pas grand-chose à attendre, mais ils attendent tout du ciel. Alors le ciel est très simple avec les esprits saints. Il y a des cas limites. Et vous voyez bien, ces rencontres dont je vous ai parlé m'ont aidé à le comprendre. Il y a des cas limites, ce sont des saints apparemment, je dis bien apparemment, possédés, mais dépossédés, entre guillemets. Et je suppose que vous pensez comme moi à Mariam de Jésus crucifié, la petite arabe carmélite, dont je vous recommande la lecture. Bon, c'est du hors cadre, c'est du hors norme. Vous n'êtes pas frappé d'une chose? Vous n'êtes pas frappé par le fait que Dieu, en ce 20e siècle, ait engendré des saints hors cadre? Padre Pio, pour moi, c'est le nec. Des types, Mère Yvonne Aimée, bon, elle n'est pas sainte, mais Mère Yvonne Aimée, pourquoi ça tarde tant son procès? Mais parce qu'il y a trop de surnaturel. C'est curieux. Et vous ne comprenez donc pas ce qui vient? Si Dieu, qui est Providence, donne des saints hors cadre, parce que nous allons vivre quelque chose hors cadre, et il donne des grâces par ces saints-là à la mesure de ce que nous allons vivre. Donc ne désirez pas changer d'époque. Elle raconte. Le démon me fit commettre beaucoup de fautes extérieures sans que je pêche. Des fautes formelles, comme on dit. Ma volonté n'y sera pour rien. Je ressemblerai alors aux petits enfants chez qui la raison sommeille et qui sont incapables pour cela de tout péché. Satan voulait être mon maître. Il a demandé la permission à Dieu de m'éprouver. Mystérieux, hein? Mais c'est biblique. C'est biblique. Est-ce que vous vous rappelez la passion de Jésus? Satan vous a réclamé pour vous passer au crible. Je vais raconter quelque chose à ce sujet-là. Jésus et Marie me garderont, et ainsi, en cherchant à me faire tomber, écoutez ça, le démon me fera grandir plus rapidement en Dieu. Oui, oui, Satan! Je deviendrai plus grande aux yeux des dieux grâce à ta malice. Retournement complet. Alors il y a quelque chose de fort dans la vie de Mariam crucifiée, c'est que, je vous signale que c'est la vision aussi de Léon XIII qui a demandé de faire périr l'Église il y a 100 ans. C'est étonnant ce quand on... Et donc, Satan se présente à Dieu. Vous trouvez les choses chez Job ? Donc arrêtez de dire c'est du délire du Moyen-Âge, tous ces trucs-là. Il se présente et il dit « T'as Mariam, Jésus crucifié. Je suis sûr que je vais te la faire pécher. » Ok, vas-y. Il fait le deal, Dieu. C'est mystérieux, mais c'est réel. Et il lui donne la grâce. Mais Satan lui dit « Attention, hein, on ira jusqu'au bout. » Bien. Si vous lisez les écrits de Thérèse d'Avila, il est dit ceci, mystérieux mais réel et tout à fait compréhensible. C'est que arriver à un certain stade d'union à Dieu, à chaque fois que Satan attaque une âme d'élite, une âme sainte, il en repart avec un coup de pied où je pense. Ah ben vous pensez la même chose, tiens, c'est marrant. Il repart, plus exactement, humilié. Et dans les derniers temps, où Mariam de Jésus crucifié a été élevée dans un niveau d'union de volonté où elle n'existe plus, il n'y a plus que Dieu qui a toute la place chez elle, à chaque fois que Satan l'attaque, cette âme étant devenue Dieu, Satan retourne humilié par la présence de Dieu. Et c'est à ce moment-là que Satan ne veut plus l'attaquer. Et Dieu lui dit, jusqu'au bout, et à chaque fois qu'il va attaquer cette âme sainte, il va repartir humilié. Quel mystère, mes amis. Je vous donne une petite chose au passage. Dans tous ces combats quotidiens, tout ça, prenez la Vierge. C'est le plus grand exorciste du monde. Et c'est votre maman. Donc qu'est-ce que tu as peur avec une maman? En plus, une maman divine, qui n'est pas Dieu, bien évidemment, mais voulue par Dieu pour être la mère de Dieu. Ben, puisqu'on est chez Marthe. Quand Marthe était attaquée la nuit par le diable, ben, bien sûr pas pour le plaisir des attaques, mais pour que les retraitants qui participaient aux retraites soient visités, soient libérés, soient purifiés, soient pacifiés. Ça se paye. Là encore, un des problèmes de la crise de l'Église, c'est là, c'est le refus de la croix pour moi. Bon, mais c'est une parenthèse. Et donc c'était très très dur. Et elle dit, à un moment, bon c'est moi qui fais simple, mais Jésus dit, terminez la récréation. Et donc il envoie sa mère dans la chambre de Marthe. Et Marthe dit, quand la mère apparaissait, si vous voyez la dégringolade du côté du diable, pourquoi il la hait? Parce qu'elle est sans péché. Et parce qu'elle est la plus humble des créatures et qu'il est l'orgueil personnifié. Être écrasé par la plus petite des créatures, c'est, mais ça le fait. Bon, il a plus de dents, quoi. Ça le fait rugir. Alors, mes amis, une autre petite note. Si je vous ai dit que, si la tradition et l'écriture nous dit qu'il ne peut pas posséder notre liberté, à moins qu'on lui livre notre liberté, parce qu'il y a des pactes avec Satan. Ça, c'est des trucs que je ne croyais pas au début de mon ministère. Mais bon, voilà, on souhaiterait pas rencontrer tout ça. Hein. Si vous ne livrez pas votre liberté, il ne pourra pas. Je vous ai dit, c'est un coffre-fort. Par contre, il va attaquer sur votre sensibilité. Il va vous faire peur, il va vous faire souvenir de mauvaises images, d'images troublantes, etc., etc. D'odeurs. Par exemple, un type... qui aimait beaucoup le whisky, un peu trop. Les tourbés, c'est les meilleurs, je vous les recommande. Mais plus sérieusement, il avait arrêté, il avait été guéri par la grâce du Seigneur Jésus. Et un jour, ils se trouvent à la terrasse des cafés, un peu comme aujourd'hui, on lézarde, c'est sympa, nous, en fait, hein, sur la pelouse, non? Et il prend un Perrier, et c'est fou, effectivement, c'est fou. Et il prend le Perrier, et à la table à côté, il y a quelqu'un qui prend le whisky tant aimé. Et là, l'odeur, voilà, ça a été très très dur. L'essence. S'il en est ainsi, chers amis, il nous faut rester extrêmement vigilants à tout ce qui traverse notre sensibilité. Et comme nous vivons aujourd'hui sous le culte de l'émotionnel, il y a quasiment parfois des autopossessions, vous m'entendez, parce que les personnes vivent complètement sous le joug de ce qu'ils ressentent. Le socle le plus profond de ton âme, c'est pas ce que tu ressens, c'est ce que Dieu fait et est en toi. Voilà pourquoi la louange est extrêmement importante. Quand vous n'êtes pas bien, quand vous sentez des choses pas bien, quand vous ne vous sentez pas bien, tout ceci est profondément catholique. C'est pas du tout le dernier trip à la mode. Ça a à voir avec les actes anagogiques dont parle Jean de la Croix, qui on s'extrait du sensible pour s'envoler en Dieu, et là le diable avec ses griffes, il peut plus t'atteindre, parce qu'il ne peut atteindre que le sensible chez toi, par toi. Et quand tu vis au niveau de Dieu, eh bien tu vas te rendre inatteignable. Et il y a, mes amis, un immense besoin de purification du sensible. Il ne s'agit pas de devenir des glaçons. C'est faut beaucoup de temps. Mais je suis vraiment frappé de voir que les gens quasiment s'auto-possèdent par le fait qu'ils ne vivent qu'à partir de ce qu'ils sentent, comme si c'était le socle de la vérité, du réel. Vous n'êtes pas bien, allez louer, adorer. Mais attention, fais attention. Si ton oraison passe son temps à écouter ce que la petite musique des sirènes, de ce que tu ressens, bah tu vas être sous le joug. Il faut vraiment bénir. Et parfois la louange va être, il va falloir qu'elle soit vocale. Alors essaye de ne pas le vivre la nuit pour ton mari, s'il te plaît, parce qu'il veut dormir ou je ne sais, mais ou pendant les messes. Mais voilà. Quand on est attaqué par le corps, il faut répondre par le corps. Et parfois, la prière simplement au niveau de l'âme, de l'esprit, va être insuffisante. Il faudra s'aider d'une prière avec le corps. Je suis clair? Si une âme vit ça, elle va aller de victoire en victoire. La grande difficulté, mes amis, c'est que non seulement aujourd'hui, nous vivons sous le joug du ressenti. Regarde le langage. C'est comme tu le sens. Mais non seulement ça, c'est le royaume du zapping, du changement des émotions. Et là, Jésus nous dit, si vous voulez grandir, guérir, être pacifié, il faut apprendre à durer. C'est devenu un luxe. L'art de durer. C'est un beau petit livre, écrit par un moine. Troisième partie, les costumes du diable. Oui, ça peut être rigolo d'en parler de costumes, mais écoutez, 2 Corinthiens 11, 14. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Là encore, il se reconnaît. Il peut être très beau, mais les femmes vont entendre cette parole plus que les hommes. C'est une beauté glaciale. Parce qu'elles sentent ça, les femmes. Parce que c'est votre grâce, normalement. C'est une grâce du génie féminin. Les costumes du diable, séducteurs.
Saint Ignace de Loyola, dans ses très sérieux exercices, dit que le Satan se comporte comme un amoureux frivole qui va séduire une dame, et il fait tout pour qu'elle se taise et ne dise rien, bien évidemment, à son mari, pour pouvoir continuer son péché. Jean 3, 20, 21. Quiconque commet le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient démontrées coupables. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière afin que soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. Voilà pourquoi, chers amis, le diable a horreur de l'aveu du péché. Et voilà pourquoi il a mis en place dans l'Église, c'est lui qui est à l'origine, les absolutions collectives, pour qu'il n'y ait pas d'aveu. Je ne dis pas que les prêtres qui le font sont du diable, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bon, ils font un peu ce qu'on leur a dit de faire, quoi. Mais celui qui manage des choses derrière, c'est lui, c'est le mauvais. Il a horreur de l'aveu, car l'aveu, c'est les ténèbres qui sont remontées à la lumière et qui deviennent automatiquement lumière. N'ayez pas peur quand vous vous confessez. Il y a un autre diable à l'intérieur qui s'appelle l'accusateur et qui veut te dire « Bah, tu vas quand même pas aller dire ça au prêtre, qu'est-ce qu'il va penser de toi ?» Si vous saviez comme le prêtre, tout prêtre, admire les pénitents, vous vous rendez pas compte de ça. Vous croyez qu'il vous regarde de haut et qu'il vous juge. Plus c'est infect ce que vous confessez, plus le prêtre a envie de se mettre à genoux et admire votre humilité. D'ailleurs, moi, c'est pour ça, quand je confesse à genoux, quand je peux. La Sainte Vierge raconte à Marianne de Jésus crucifié. Il y a des êtres sur la terre qui, par la suite de la fragilité humaine, tombent dans quelques fautes parfois graves. Le démon met alors tout en œuvre pour intimider l'âme coupable, afin de l'empêcher d'accuser son péché. Et il lui dit, le prêtre te croit bonne, sainte, mais si tu lui avoues cette faute, quoi ? Confesser ce péché à un homme ? Non, tu ne le feras pas. Et les gens écoutent l'insinuation du diable. Marie continue. L'âme trompée cache son péché. Elle continue à recevoir les sacrements. Un péché en attire un autre. Le démon finit par l'aveugler. Elle tombe en enfer. L'aveu ne signifie pas humiliation. L'aveu signifie humilité. C'est pas du tout la même chose. Quand vous vous confessez, faites des confessions vraies, humbles. Dites les choses. Faites pas comme ce bon paysan. Il a trouvé son curé des très très pieux. C'est une histoire, hein. Et puis il dit, monsieur le curé, il était très pieux, ce qu'on faisait souvent, tout ça. Monsieur le curé, j'ai volé une corde. Ben enfin, vous êtes devenu un peu scrupuleux avec le temps. C'est monsieur le curé, au bout de la corde, il y avait une vache. Si t'as volé une vache, ben dis que t'as volé une vache, pas une corde. Ou du genre, voilà, je vais me confesser, mon père. J'ai manqué de patience, mais c'est la faute de ma femme. Après, l'autre péché. Mais c'est la faute de ma femme. Bon, allez donc chercher votre femme, c'est elle qui va se confesser, ce sera plus simple. Autre costume. Menteur, maître du soupçon. Jean 8, 44, il est désigné comme le père du mensonge. Avez-vous remarqué
La Genèse, c'est extraordinaire. La tentation du serpent. Monsieur Genèse, il a peut-être pas suivi les cours de Monsieur Freud, mais quelle connaissance du cœur humain, hein. À mon avis, plus puissante que chez Monsieur Freud, parce que sa vision est un peu courte et un peu fausse. Le cœur de l'homme, c'est pas la libido, hein. C'est l'amour. Quelle vision restrictive des choses. Avez-vous remarqué qu'il commence par un tout petit mensonge? Tout petit. Alors Dieu vous a dit, vous n'en mangerez pas? La femme commence à dire, allez, on est foutu. Et à la fin, c'est gros mensonge. Lequel? Dieu sait le jour où vous n'en mangerez pas, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Satan réussit à détourner les intentions bonnes de Dieu, comme s'il était jaloux de l'homme. Ceci se passe dans la tentation pour un être et un couple humain. Aujourd'hui, avec la modernité et avec les fameux maîtres du soupçon, ils sont bien désignés en étant appelés ainsi, Marx, Nietzsche, Freud. Et dites pas, tout ça c'est de la philosophie. On est imprégné de ce truc-là. Aujourd'hui, Satan ne travaille plus au cas par cas. Il est comme la montée du tourbalet. Il a pris un autre braquet. Maintenant, c'est des sociétés entières par les maîtres du soupçon. Cardinal Sarah, quel prophète. Vous aimez ? Formidable. L'Europe semble programmée pour s'auto-détruire. Elle n'a de vision de son avenir que sur les plans économiques et militaires. Ses racines judéo-chrétiennes sont oubliées. L'Occident semble se haïr et prêt à se suicider. La persécution la plus destructrice du christianisme se déroule aujourd'hui dans les démocraties occidentales bien peignées. On y a tué Dieu. De plus en plus, le catholique est marginalisé, terrorisé, humilié, ridiculisé. Si vous ne voulez pas vous préparer à être ridiculisé, vous ne tiendrez pas. Champion du découragement. Je parle de Satan. Vous avez peut-être entendu cette petite et gentille histoire pleine de vérité au sujet du diable. Bien sûr, c'est une parabole, mais vous savez, les paraboles sont souvent beaucoup plus percutantes que les discours scientifiques qui ne peuvent que parler que du réel. Mais pour parler des choses divines et surnaturelles, il n'y a que le langage analogique qui puisse être adéquat. Cette petite histoire, c'est voilà, à une période de l'histoire, Satan, ça marchait plus sur sa petite entreprise. Les gens ne se laissaient plus tenter. Alors il a été obligé de faire une grande braderie, un vide-grenier. Je vois ça, je suis arrivé à Tressin. Vide-grenier. Il y a des vide-greniers partout. Les vide-greniers sont pleins, les amis, hein. Bien. Il fait un vide-grenier parce qu'il est obligé. Sa petite start-up fait faillite. Alors il vend ses instruments de torture et de tentation. Il vend tout à pas cher puisque ça périclite. Puis à un moment, il y a un instrument, alors là, c'est des milliers de dollars qui vaut le truc. Alors on lui demande, pourquoi vous le vendez si cher? En plus, il est très usé. Et réponse du diable, c'est l'arme du découragement. Elle est usagée parce que je l'utilise presque avec tout le monde et très peu de gens savent qu'elle m'appartient. Oh, comme c'est vrai, les amis.
Une fois que j'ai réussi à l'introduire dans une âme ce découragement, je la manœuvre sans difficulté et je la mène où il me plaît. Soyez attentifs dans vos périodes de découragement. Il est derrière. Je dis pas que t'es possédé, arrête de voir la position partout. Je dis qu'il est là. Il manie les fils. Les découragements, ça va être quoi? Si vous avez un minimum de désir de Dieu, il est anormal que vous ne souffriez pas de vos péchés. C'est le signe que pour vous le péché c'est que dalle. C'est le signe que vous n'avez pas rencontré Jésus, parce que vous n'avez pas encore senti que vous le blessez. On ne sent la vérité du péché que par la découverte de l'amour de Dieu. Et donc, il y a une période, il y a un passage difficile à négocier. Je voudrais vous encourager à bien négocier. C'est le fait que, voilà, on va avoir, comme dit le psaume 50, « Mon péché est toujours là devant moi, sans relâche. » Par exemple, François de Sales dit que notre orgueil ne mourra qu'un quart d'heure après notre mort. Donc tu peux toujours courir. Hein? Il va falloir que tu fasses avec. Un autre, ça va être de la colère. Un autre, ça va être, je ne sais quoi, du découragement. Voyez bien le mécanisme du péché et voyez bien la technique du diable. Ce qui l'intéresse, le péché, ce n'est pas que tu tombes dans le péché. Laissez-moi finir, sinon vous allez me traiter d'hérétique. Qu'est-ce qui l'intéresse? C'est l'après-péché. Où tu te sens tellement minable que tu te dis quoi? Il ne peut pas m'aimer. Je suis infréquentable. L'après-péché a à voir avec le péché contre l'esprit, qui est le doute d'être aimé de Dieu et de sa miséricorde. Voilà pourquoi Jésus, dans le petit journal de Sainte Faustine, dit que les péchés qui lui font le plus de peine, ce ne sont pas les péchés, ce sont les manques de confiance en sa miséricorde. Prenons la colère, et on va faire appel à François de Sales. Il dit, les gens piquent une colère et après, que font-ils? Ils se mettent en colère de s'être mis en colère. Vous vous retrouvez pas en ce portrait? Dites-moi, dites-moi que je suis pas le seul. Alors un autre, ça va être la tristesse. Grosse crise de tristesse. Et après, oh mince, j'ai été triste d'avoir été triste. Voilà. Et vous visitez tout et c'est comme ça. Et ce qui l'intéresse, c'est comme dit le langage de l'époque de François de Sales, il se courrousse de s'être courroussé. Vous ne trouvez pas ça très beau? Soignez l'après-péché. Soignez l'après-péché. Bien évidemment, soignez l'avant-péché. Faites tout pour pas tomber, je suis bien d'accord. Mais si vous avez compris la tactique du diable, ce qu'il veut, c'est te faire pécher pour que tu désespères d'être aimé. C'est le problème de Judas. Il en est allé se pendre. Quel est le drame de Judas? Je ne me le pardonnerai jamais. Il ne me le pardonnera jamais. Je laisse parler François de Sales pour nous montrer que les tristesses de l'après-péché, ça paraît catho, c'est du contraire de catho. Écoutez ça. Ces colères, dépit et aigreur que l'on a contre soi-même tendent à l'orgueil et non d'origine que de l'amour propre, qui se trouble et s'inquiète de se voir imparfait. C'est l'amour propre, l'orgueil, qui fait que nous nous impatientons de nous voir pauvres et misérables. La première miséricorde qu'il faut développer vis-à-vis de soi, vis-à-vis de soi. Un jour, Sainte Faustine, qui était une âme particulièrement immaculée, commet une légère imperfection.
peut-être un manque de patience, je ne sais pas. Vous voyez, mais le truc que nous, on dira, bon, enfin, attends, ça suffit, moi j'en fais des tonnes, quoi. Hein. Bon, un petit truc de règle. Et que fait-elle? Ça l'attriste parce qu'elle aime son Jésus et son époux. Mais elle se plonge aussitôt dans la confiance en Dieu. Et elle entend alors Jésus lui dire ceci. Vous allez voir, c'est très libérant. Hein. Sans cette petite imperfection que tu viens de commettre, tu ne serais pas venu vers moi. Fort, hein, non? Vous ne pourrez pas? Sache-le, chaque fois que tu viens vers moi, en t'humiliant et que tu demandes pardon, je déverse une immensité de grâce sur ton âme. Et ton imperfection disparaît à mes yeux. Je ne vois que ton amour et ton humilité, tu ne perds rien. Tu gagnes beaucoup. Il y aurait plein de choses à dire. Je voudrais juste terminer par diviseur. Bon, on a dû vous le dire dans vos paroisses, hein, vous avez dû l'entendre. Le diable en grec vient, donc diable vient d'un mot grec, diabolein, qui veut dire diviseur. Et là, aujourd'hui, il a vraiment un boulevard. Regardez comment il divise les couples, les divorces énormes. Comment ils divisent les familles pour des histoires de rien, de pognon périssable, d'héritage, je ne sais, des trucs de rien. L'amour fraternel devrait nous distinguer. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns les autres. La division dans le monde, la division, la difficulté, regardez, c'est des analystes non-cathos qui disent ça, regardez la violence sur les réseaux sociaux. Moi, je ne sais pas comment ça marche, tous ces machins. Pourquoi vous perdez du temps avec tous ces trucs-là? C'est d'une violence. Il n'y a plus de dialogue possible. C'est là, le bazooka de service, dès que tu penses différemment de moi. Il règne. Je termine par ce propos du pape Paul VI. Après l'après-concile, avec cette division totale au niveau de la foi catholique, devant la situation de l'Église d'aujourd'hui, dit-il dans les années 75, nous avons le sentiment que par quelques fissures, la fumée de Satan est entrée dans le peuple de Dieu. Nous voyons le doute, l'incertitude, l'inquiétude, l'insatisfaction, l'affrontement. On met sa confiance dans le premier prophète profane venu. Le doute est entré dans les consciences et il est entré par des fenêtres qui devaient être ouvertes à la lumière. Je vous rappelle, à moins le quart, vous avez un petit goûter possible, n'hésitez pas.